Auditrices et auditeurs, bienvenue sur cette émission sur les livres et leurs auteurs. Une émission sur les livres, avec leurs auteurs, des livres qui réunissent le plaisir de la lecture à la réflexion théologique. Régis Burnet, bonjour. Régis Burnet, professeur de Nouveau Testament, vous êtes vice-doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Alors, que fait un vice-doyen dans une université catholique en Belgique ?
Bonjour à tous. Un vice-doyen dans une université catholique en Belgique, il s'occupe surtout des problèmes administratifs. Un vice-doyen, vous savez, c'est simplement une charge plutôt administrative, et donc je m'occupe des étudiants et de leurs problèmes.
Alors nous sommes en communication téléphonique avec vous, Régis Burnet. Vous êtes donc à Louvain et vous venez de publier aux éditions Cabedita les Apocryphes, témoins d'une église plurielle. Alors les Apocryphes, c'est un vocable peu commun. Qu'est-ce qui se cache sous ce terme, Régis Burnet ?
Alors, en fait, on appelle apocryphe, et c'est une habitude qui remonte en fait à l'Antiquité. On appelle apocryphe tous les textes qui auraient pu rentrer dans le canon des Écritures chrétiennes, mais qui n'y sont pas rentrés. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. On va probablement en parler dans la conversation. C'est donc des textes qui sont pas forcément en concurrence. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que quand vous lisez des romans ou quand vous lisez des bandes dessinées, on vous parle souvent d'un apocryphe qui vous donnerait des informations cachées sur Jésus et les apôtres. Non, apocryphe, ça veut simplement dire pas dans le canon, pas dans les écritures qu'on lit le dimanche au culte ou à la messe.
Pourtant, vous nous dites, page 7, apocryphe, ce nom seul suffit à évoquer un remugle de complots et de conjurations, une atmosphère trouble où d'inquiétants monsignories dissimulent un pistolet à canon scié sous leur surplis et se débarrassent avec cruauté de braves universitaires ou de naïfs redresseurs qui eurent le malheur de mettre la main sur un texte depuis longtemps interdit. Alors, shérif Burnet, de ce western biblique, que se passe-t-il ? Pourtant, malgré ce que vous nous avez dit en introduction.
Oui, en fait, il y avait un côté ironique pour commencer un peu ce livre, et j'espère en tant qu'universitaire ne pas voir débarquer dans mon bureau un inquiétant monsignor. Justement, mais c'était aussi pour expliquer aux lecteurs qui comme moi regardent les séries télévisées sur le web ou qui aiment les BD que on a construit autour de ce terme d'apocryphe depuis une trentaine d'années, en lien aussi, vous savez, avec le Da Vinci Code, ce roman de Dan Brown, une sorte de mythe selon lequel les apocryphes, ce seraient des textes cachés par l'Église qui ne voudrait surtout pas voir révéler des vérités. En réalité, c'est pas du tout ça. Certains apocryphes, comme le protévangile de Jacques, qui passe dans notre latinité sous le nom d'évangile du pseudo Matthieu, a été lu dans l'Église. On a des centaines de manuscrits de ce texte et a servi de base, de fondement à toute la légende mariale. Si on connaît par exemple le nom des parents de la Vierge, si on a des images sur le fronton des cathédrales du mariage de Marie ou de Marie dans le temple, c'est largement lié à cet apocryphe-là qui en fait est une légende hagiographique, c'est une légende sur les saints. Donc c'est pas du tout des textes cachés. Alors certains sont concurrents, faut être précis, mais tous ne sont pas des concurrents. Beaucoup ont été utilisés par l'Église.
Mais est-ce que toutefois ces textes qui sont découverts par des archéologues ont-ils modifié la compréhension ou l'interprétation des évangiles ou des textes bibliques, des évangiles
Alors oui, oui et non. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien apporté sur les évangiles, enfin sur de connaissances supplémentaires sur Jésus, par exemple. Tout simplement parce qu'ils sont, enfin tous ceux qu'on a trouvés sont au mieux de l'époque des évangiles canoniques et la plupart du temps vraiment d'une période postérieure. En revanche, ils ont confirmé certaines interprétations que l'on faisait de certains textes. Je pense par exemple à un évangile de Thomas qui donne enfin, c'est un recueil de sentences, de paroles de Jésus, si vous voulez. Et donc, ça a permis, par exemple, de renforcer l'historicité de certaines paroles. Et puis, surtout, ça a permis de comprendre que l'Église, dès son principe, dès son origine, est plurielle. C'est le nom, c'est un peu le sens que j'ai voulu en donnant ce titre-là, témoin d'une Église plurielle. En fait, ça nous explique que l'Église a, dès le début, était multiple et que il y avait des communautés différentes qui proposaient des textes différents. Et donc voilà, c'est surtout ça que ça nous a appris. Ça nous a plus appris sur l'histoire de l'Église que sur Jésus et les apôtres.
Alors, cette histoire de l'Église, comment est-ce qu'elle s'est justement construite à partir comment est-ce que ces textes ont apporté à cette histoire de l'Église?
Eh bien, simplement, on s'est rendu compte que il y avait peut-être plus qu'on le pensait des communautés juives, enfin chrétiennes d'origine juive. Et donc, on a plusieurs textes qui nous montrent cela. On s'est aussi aperçu que il y a beaucoup, et ça, c'est tous les textes qu'on a découverts à Nag Hammadi, qu'il y avait une frange très mystique. Qui quelquefois en arrivait à une forme de dualisme. Le dualisme, c'est d'opposer un principe bon avec un principe mauvais, à égalité, si vous voulez. Les chrétiens estiment que le bon triomphera toujours du mauvais, alors que là, il y a une, enfin, dans le monde, alors que là, il y a une, enfin, on pense à une sorte de dualisme d'opposition. Et donc, ces communautés-là, sont peut-être plus importante qu'on le pensait. Et puis, ça nous permet aussi de découvrir un christianisme populaire. Vous savez, on n'a aucune idée de ce que c'était que la prédication populaire, en fait. Ce que nous avons conservé, c'est les textes de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire les grands théologiens de la première Église. Dans les apocryphes, vous entendez le reflet des sermons qu'on entendait dans les villages et dans les villes.
À la fin de votre livre, en effet, vous, et même parfois avant la fin, vous évoquez des images, des représentations graphiques de scènes bibliques. Ne sont-elles pas justement inspirées de ces apocryphes?
Ah si, tout à fait. Alors une que j'aime bien parce que c'est quelque chose qui est très enfin très très fréquent, c'est, vous savez, la fuite en Égypte. Quand vous avez une image de la fuite en Égypte, les trois quarts du temps, vous avez un palmier au-dessus de la Vierge et de Joseph. Tout simplement parce qu'il y a un apocryphe qui vous explique qu'il y a eu pendant cette fuite en Égypte, il y a eu un miracle du palmier qui se serait incliné pour laisser passer enfin, ou pour faire de l'ombre, plus exactement, au fils de Dieu. Voilà. Autre exemple, hein, là aussi, je trouve ça très intéressant. Tout ce qui se passe dans les enfers, l'icône orthodoxe de la descente aux enfers, de Jésus qui danse sur les portes de la mort, tout ça vient en fait et de la prédication, enfin des pères de l'Église, et également de certains apocryphes qui décrivent cela. Donc, ces apocryphes ont eu un rôle fondamental, fondateur, pour les images, d'Orient et d'Occident.
What we wanted, your eyes. see.
I know so well, but this is all there is.
This is how we grow now. A child ignored. These will just be places to me now. The foreman is down. We're rising the stairs. Staying at the Ace Hotel, the call will allow. I would just be floating to you now. It would make me pass to let it pass on. I'm climbing the dash, that's you.
Régis Burnet, de continuer à nous rendre sensibles à des textes qui gravitent autour de la foi chrétienne et qui ne sont pas contenus dans le canon biblique. Régis Burnet, vous publiez aux éditions Cabedita un livre de 95 pages sur les apocryphes, témoins d'une église plurielle. C'est vrai que j'avais plutôt dans l'idée pour les apocryphes que c'était des textes à côté du canon biblique, et là vous orientez plutôt votre réflexion sur cette dimension de l'église dans sa diversité.
Oui, parce que c'est vrai qu'on avait une conception un peu monolithique de l'histoire de l'Église, liée à l'histoire, enfin liée au fait que les pères ont voulu concevoir l'histoire de l'Église en une sorte d'orthodoxie. Hein. Il y aurait eu une communauté orthodoxe qui n'aurait jamais varié, et des sorte de branches qui seraient parties hors de cette Église orthodoxe et qu'on aurait appelé les hérésies. En réalité, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que on a eu plusieurs communautés qui se sont spontanément constituées. Alors, des communautés liées à la langue, liées à la sensibilité, liées aussi à des rencontres, à des évangélisations. Enfin, on voit bien dans les Actes des Apôtres que les chrétiens de Paul, c'est pas les chrétiens de Jacques ou c'est pas les chrétiens de Pierre. Et c'est à la fin de l'histoire, si vous voulez, au moment où l'Église devient puissante, se constitue en lien avec le pouvoir politique, bah, c'est par un regard rétrospectif que on a sélectionné une sorte de courant majoritaire en déclarant que tous les autres étaient apocryphes. Donc, si vous voulez, c'est une construction de l'histoire qui est faite par les pères de l'Église et qu'on a systématiquement répété par la suite. Alors qu'on voit bien que lorsqu'on pense à l'histoire des réformes ou même à cette distinction entre Église latine et Église grecque, que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un rameau qui surgit d'un arbre qui serait monolithique. C'est des sortes de courants, de conflits, c'est beaucoup plus compliqué les histoires humaines.
Alors du coup, est-ce que ces textes aujourd'hui hors du canon biblique pourraient être intégrés dans le Nouveau Testament? On a bien eu pour l'Ancien Testament ce psaume 151 qui était introduit il y a quelques années dans la dernière traduction de la Bible œcuménique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le protévangile de Jacques soit mis dans la Bible?
Alors, si vous voulez, l'Église a toujours, et quand je dis l'Église, c'est l'ensemble des confessions et des dénominations chrétiennes, hein. On a toujours donné plusieurs critères qui sont les critères d'universalité, c'est-à-dire le fait que le texte soit lu de manière universelle dans toutes les églises, et le principe de continuité de la lecture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une interruption. Ça, c'est, si vous voulez, c'est des principes qui sont un peu a posteriori, hein, parce que ce qui s'est passé simplement, c'est ce qui a permis de faire rentrer un texte dans le canon, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas les décisions canoniques, c'est le fait qu'on les a recopiées et qu'on les a mis dans des livres. Et donc, le fait de faire rentrer le protévangile de Jacques dans le canon contrevient à l'idée que on l'aurait lu tout le temps et partout, si vous voulez. En plus, bon, quel est l'intérêt? Le protévangile de Jacques, c'est une légende hagiographique. C'est un peu du même genre que la légende de Saint-Martin de Tours ou des choses comme ça. C'est intéressant, c'est des belles histoires, ça peut aussi édifier les gens, ça peut les intéresser pour leur piété, mais c'est pas ça ne dit rien sur le Jésus, sa mort, sa résurrection, sa passion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu annexe en réalité, ces textes-là.
Vous avez réparti ces textes apocryphes ont trois grandes catégories dans votre livre « Les apocryphes témoins d'une église plurielle ». Donc on a les textes dits gnostiques, les apocryphes sur Marie, les actes apocryphes des apôtres. Est-ce que vous leur accordez des importances différentes? Est-ce que vous conseilleriez la lecture prioritaire de l'un d'entre eux? Comment est-ce que vous les organisez?
Alors, justement, ils sont donc organisés en trois, les actes apocryphes, et c'est aussi les légendes sur Marie, sont un peu de l'ordre de la géographie. Hein. C'est-à-dire, les actes apocryphes d'apôtres, c'est des légendes sur les apôtres, un peu comme qui vont donner les légendes de saints. Hein. Sur Marie, c'est un tout petit peu différent, parce que, comme je l'ai dit, il y a à la fois le côté hagiographique, et il y a aussi le côté théologique, parce qu'à partir du moment où on a défini Marie comme la mère de Dieu et la Vierge perpétuelle, hein, Marie toujours Vierge, on s'est intéressé à son destin, et en particulier à sa mort. Donc, est-ce qu'elle s'est endormie? Est-ce qu'elle a été enlevée au ciel? Donc là, on est aussi à la frontière du théologique et de la géographique. En revanche, les textes gnostiques, c'est des textes hyper théologiques, de communautés mystiques qui sont, comme je l'ai dit, un peu à la marge, un peu d'une théologie très très différente de la théologie habituelle. Et donc, moi, je conseille rien. C'est-à-dire, ça dépend ce que vos auditeurs ont envie de lire. Les récits, les actes des apôtres, c'est charmant, c'est des petites histoires, alors avec un peu de théologie, parce qu'il y a des prédications, mais c'est charmant. En même temps, les textes gnostiques, c'est hyper intéressant, un peu difficile d'accès, parce que justement, il y a un langage, il y a une manière de concevoir la foi qui est tellement étrangère que ça demande un peu de... Ça demande un peu d'habitude, quoi. Il faut... Enfin, en tout cas, il faut lire avec un livre qui a des notes.
Ces textes ont été découverts dans les années 45-50 pour la plupart d'entre eux.
Alors,
ou bien,
les
dites-moi.
Les textes gnostiques, oui. Ils ont été découverts dans le, dans le, sur le bord de, du Nil, à Nag Hammadi. C'est une découverte archéologique, hein, fortuite. C'est une bibliothèque conservée en copte, la langue des Égyptiens de l'époque. Les autres, je pense par exemple au Protévangile de Jacques, a toujours été dans les bibliothèques. C'est passé des studiums, des monastères aux bibliothèques, à nos bibliothèques nationales.
Est-ce que vous pensez que les archéologues espèrent encore trouver de nouveaux textes ainsi cachés donc ?
Ah ben bien sûr, et j'espère qu'il y en aura beaucoup. Vous savez, on n'a aucune idée de ce qu'il y a et on ne sait pas, on ne connaît pas les gisements, si vous voulez. C'est pas comme avec le pétrole où vous pouvez prévoir où se trouvent les recueils de textes. Et c'est tout à fait possible parce que, comme je l'ai dit, par exemple à Nag Hammadi, c'est une bibliothèque qui était sauvegardé comme ça qui était enfoui dans une sorte de cave et on a fouillé, on a trouvé et il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres bibliothèques qui se sont vues miraculeusement préservées.
Pour montrer une diversité plus large encore de l'Église ou...
Ah, ça sera certainement pour ça, plus je travaille et plus j'ai l'impression que l'Église des commencements est multiple, multiculturelle, multicolore, encore une fois, il faut quitter cette idée d'une Église monolithique, centralisée. C'est vraiment ça, l'Église, elle est diverse.
Alors, quand on enseigne le Nouveau Testament à Louvain, est-ce que cette place-là pour ces textes, donc hors de la Bible, et pour donner une autre image peut-être de l'Église, est importante ?
Mais absolument, parce qu'à Louvain, nous faisons une théologie universitaire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des séminaires ou nous ne sommes pas dans des instituts pour former des pasteurs. C'est vraiment de l'universitaire. Et donc, l'étude des apocryphes est fondamentale pour éclairer l'histoire de l'Église primitive. Vous ne pouvez plus actuellement vous passer des apocryphes. Il n'y a pas que l'étude de la patristique, donc des pères d'Église. Il faut aussi étudier ces textes.
Donc les personnes qui s'inscrivent à l'Université catholique de Louvain sont inscrites en théologie pour une connaissance globale, une culture théologique.
Oui. C'est vraiment de la théologie universitaire, c'est-à-dire que on a quelques prêtres, hein, c'est l'Université catholique de Louvain, donc on a quelques prêtres, mais le contrat, si vous voulez, c'est que on traite de manière critique la théologie. Alors critique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en faisant entendre la voix des sciences humaines, en faisant entendre la voix de l'histoire, en faisant entendre la voix de la philosophie. Et donc on a beaucoup de gens qui après une formation, disons de séminariste, demandent d'avoir une formation universitaire parce que la foi est aussi raisonnable une foi qui aurait peur de la science, qui aurait peur, encore une fois, de l'histoire, ou c'est pas une vraie foi, et de toute façon, le monde se chargera de la balayer. Même pas peur, quoi. Même pas peur de l'histoire, même pas peur de la théologie, de la sociologie, de tout ça.
En France, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça ?
Disons qu'en France, il y a un fort réseau universitaire, en particulier l'Institut catholique de Paris, l'Institut protestant de théologie qui est à Paris également, et il y a l'Institut de Montpellier. Donc il y a une tradition universitaire. Mais c'est vrai que on le voit un peu depuis quelques années, il y a quand même un repli, je trouve, de la théologie qui se dit le plus important c'est pas ça, le plus important c'est la pastorale, c'est la piété, c'est le toutes choses qui sont extrêmement importantes. Hein. Je suis pas en train de prêcher l'un contre l'autre, mais c'est vrai que une foi qui aurait peur de la raison, c'est pas une foi solide.
Merci beaucoup Régis Burnet, merci d'avoir,
merci à vous.
d'avoir partagé autour de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Cabedita, un éditeur suisse, Les Apocryphes, témoins d'une église plurielle. Merci, au revoir.
Merci à vous.